le dossier de Marie-France Martel.
Bonjour Marie-France.
Bonjour Martin.
Avec probablement un des segments que j'aime le plus, c'est-à-dire les échos de vestiaire du conseil municipal de la ville de Sherbrooke qui se tenait lundi soir dernier. Et commençons là où on est à pas de tortue, puis je dirais même que je suis pas fin pour les tortues, parce que la ville va moins vite que les tortues concernant le recyclage du verre.
Oui, et la conseillère municipale Annie Godbout l'a dit, Martin. Elle, ce qu'elle voudrait, c'est que la ville de Sherbrooke se positionne clairement sur le recyclage du verre parce qu'on parle beaucoup de ce sujet-là dans l'actualité. Il y a des villes qui vont de l'avant. Et ce qu'elle a dit lundi soir, elle est revenue sur les propos de Jean-Claude Thibault de l'opération Verre Vert à Racine.
Oui.
Lui, ce qu'il dit, si la ville de Sherbrooke décide d'aller de l'avant, d'avoir une position claire, ça va avoir des impacts sur d'autres municipalités en Estrie, c'est certain.
Sûr. L'effet d'entraînement
L'effet
aussi.
D'entraînement, puis Sherbrooke étant une ville importante dans la région. Donc
mais là, on
dit,
va avoir l'air de suiveur. Ben, parce que le Val-Saint-François...
est plus à l'avant-garde.
Bien, je comprends, c'est déjà parti, eux autres.
Exact. Voyons. Alors là, c'est temps qu'on agisse. Et lundi soir, il y avait également des représentants du conseil municipal jeunesse de Sherbrooke qui se sont adressés aux élus. Eux, ce qu'ils proposent, les jeunes, c'est qu'on mène un projet pilote sur le verre, à Sherbrooke, on installe des points de dépôt volontaire dans certains endroits où il y a plus de monde, donc que les citoyens puissent aller porter leur verre. Mmh. Et c'est une proposition qui a été bien accueillie par la présidente du comité de l'environnement, Karine Godbout. Alors, je vous fais entendre respectivement Annie Godbout, suivie de Karine Godbout et du maire Steve Lussier.
On a eu des discussions en privé ici. On n'a pas eu de discussion vraiment publique. Les gens ne savent pas vraiment c'est quoi notre position. Moi, j'aimerais ça qu'on puisse, pouvoir émettre une position claire de la ville de Sherbrooke sur cet enjeu-là.
En ce qui concerne la proposition du verre pour le projet pilote, je trouve que c'est une très belle proposition que je propose d'accueillir et de demander, en fait, au service de la valorisation, de venir faire une présentation ici à mes collègues au conseil municipal sur le verre et aussi de chiffrer en fait les coûts que pourrait représenter un projet pilote.
Alors, on n'a pas à s'en faire, on est une grande ville et oui, il faut aller de l'avant avec le verre, mais de la bonne façon.
Donc, comment ça va se traduire, Martin, une fois que les services auront fait leur présentation aux élus, vers quoi on va aller pour
pourquoi
le recyclage du verre?
Pourquoi c'est compliqué? C'est franchement, là, pourquoi exemple, là, quand le maire dit « Oui, nous sommes une grande ville », c'est quoi? Là, je trouve que c'est un peu tendancieux, ça, à dire qu'on est en une grande ville, il faut faire autrement que les plus petites municipalités. Hey, Simonac, à Saint-Denis, ils ont opéré. Puis le Val-Saint-François vient déjà d'avoir ses conteneurs. Il allume, il opère, ça fonctionne. On a la preuve que le modèle qu'on a mis et qu'on a essayé, ça fonctionne. Puis ils ont même des redevances. Ils vont même sauver de l'enfouissement. Donc, économie.
La question des coûts semble préoccuper beaucoup les élus à Sherbrooke.
Ben, je comprends.
C'est récurrent. À savoir que, bon, les
initiatives... Puis ils s'en consomment de la bouteille de verre à Sherbrooke, là.
Oui.
Mais là, c'est parce qu'à un moment donné, on se donnait toujours, tu sais, le grand slogan de la ville, vert, tu sais, on était plus vert que vert à Sherbrooke. Je trouve que le vert poli, pas pire.
Pour le vert, V-E-R-R-E, ça tarde, en tout cas.
On a le vert pâle, là.
On a le vert pâle, puis... ce que disait Annie Godbout, est-ce qu'on pourrait pas travailler avec l'Université de Sherbrooke pour trouver des solutions aussi? Donc...
Hey, il y a déjà une chaîne. Ça fonctionne déjà avec le ramassage dans des lieux. On prend ça et on envoie ça à 2M Ressources qui fait le travail, qui a aussi un lien avec les gens qui retravaillent le verre. C'est parti, mon kiki. Puis en plus, tu reçois de l'argent pour le verre que tu envoies. C'est quoi qui est compliqué là-dedans?
Oui.
Tabarouette. OK. OK. Mon Dieu.
Vole le papillon au-dessus de mon école. Vole le papillon au-dessus de ma maison.
Ah, parle-moi de papillon.
Tu m'as préparé une petite chanson prochain sujet. Oui.
Ben oui.
Oui, parce que Sherbrooke pourrait bientôt devenir une ville amie des papillons monarques. Et ça a été demandé, Martin, lundi soir par la citoyenne Christelle Lefebvre, qui, elle, fait partie de la patrouille Papillon de la Fondation David Suzuki.
Oui, parce que ça, je sais que la Fondation David Suzuki a ça, l'histoire de ville.
Exact. En fait, la Fondation, sa mission, là, c'est de protéger les papillons monarques. Oui. Ce qu'elle a dit, Mme Lefebvre, c'est que c'est un tout petit papillon qui pèse seulement 1 gramme et qui fait une migration de 4000 km par année. Mais la population de monarques est en déclin. Depuis une vingtaine d'années, il y a un déclin parce qu'une plante qui est vitale pour le monarque qui s'appelle l'asclépiade. Alors, cette plante-là, elle disparaît. Donc, ça a des impacts sur le papillon. Et ce que Mme Christelle Lefebvre demande à la ville, c'est d'agir pour qu'on puisse préserver le monarque.
C'est quoi? Faut-tu planter des plantes, patentes chouettes, machin et truc?
Je vous fais entendre un extrait de son intervention. Okay.
L'asclépiade est la seule plante sur laquelle ce papillon pond et c'est aussi la seule plante qui fournit de la nourriture à la chenille. Donc, plus on la détruit, plus évidemment on amène ce papillon qui est en voie de disparition. Et donc, ma question est, est-ce que le conseil municipal, après lecture de toute la documentation qu'on peut vous apporter, serait ouvert à devenir une ville amie des papillons? Et donc, il y a différentes mesures qu'on met en place. Il y a beaucoup de soutien et je pense que déjà, la ville fait plusieurs mesures dans ce sens.
Et sur le site de la Fondation David Suzuki, ce qu'on dit, c'est que les municipalités ont le pouvoir de mettre en place des mesures pour développer des zones d'habitat du monarque. Par exemple, on peut faire des changements en matière d'aménagement paysager pour favoriser certaines plantes. Les cours d'école, les parcs, les jardins communautaires, les bâtiments publics peuvent servir aussi de zones d'habitat essentielles pour le monarque. Il y a un volet sensibilisation aussi. Là.
Excuse-moi. Le monarque, je comprends, là, mais tu le dis, il se déplace beaucoup, mais il s'en va là où il peut. Il n'y a pas d'affiche. Monarque, viens-t'en ici. Comprends-tu ce que
c'est
je veux dire?
C'est par la plante. La plante qui est l'asclépiade.
C'est la plante qui l'attire.
C'est un aménagement paysager qui contient ces plantes-là qui attirent le monarque. Dans les villes, par exemple.
C'est la chenille. Avant d'être un papillon, c'est une chenille.
Exact. Donc, si la plante, tu la favorises dans les lieux publics, les gens, tu les encourages à introduire dans leur jardin cette plante-là, donc, ça fait en sorte que le monarque est préservé.
Ah, OK.
Voilà.
Y a-t-il un coût?
Bien, c'est ça, parce qu'il y a des questions de coût aussi. D'abord, on peut écouter la présidente du comité de l'environnement, Karine Godbout, qui a déjà été sensibilisée à la protection du papillon monarque. Alors, je vous fais entendre ce qu'elle avait à dire là-dessus.
Effectivement, c'est un dossier qui, moi, me tient à cœur et qui a été effectivement présenté au comité de l'environnement. Et on est en train de le faire cheminer. Donc, il n'a pas été présenté encore au conseil municipal, mais il le sera très prochainement. Et ce que je comprends, c'est qu'il y a plusieurs gradations. Donc, il y a 24 mesures qui sont possibles et qu'il y a différentes gradations. Et pour faire partie de ça, c'est trois mesures qu'il faut adopter. Et ce que je peux vous dire, c'est que dans notre analyse, on en fait un petit peu plus que ça actuellement. Donc, ça pourra être intéressant là, de voir à quel niveau on pourra se positionner comme ville.
Non, mais si on décode, là, vite, là, dit qu'on en fait déjà plus que ce qui est recommandé, j'ai comme l'impression qu'on ne bougera pas beaucoup.
À
part d'inciter les gens peut-être à planter la petite plante.
Au niveau de la sensibilisation, ce que dit Nicole Bergeron du comité exécutif, c'est qu'il faut voir les implications liées à ça. Mais effectivement, si on en fait plus que le minimum, mais est-ce qu'on peut aller au-delà? Donc, ça va être de voir comment le conseil va être saisi de ça.
OK. Parle-moi donc du Cher Beach, c'est ça?
Tu te surpasses, Martin, en frais de chanson aujourd'hui.
Yo!
Merci.
Oui.
Le Cher Beach qui va se tenir.
Le Cher Beach, c'est la deuxième.
Oui, c'est la deuxième édition, le 12 juillet, au parc Lucien Blanchard. Et ce que dit le conseiller municipal Marc Deneau lundi soir au conseil, c'est qu'il y a des mesures qui seront mises en place pour limiter le bruit. Parce que le Cher Beach, c'est une soirée où il y a de la musique électronique, des DJ, de la danse sur la plage. C'est organisé par le regroupement d'étudiants de l'école de gestion de Sherbrooke. Et la ville de Sherbrooke, cette année, a rencontré les promoteurs pour qu'on établisse un plan de communication. Parce que l'an dernier, il y a eu 1000 participants au Cher Beach, mais il y a des citoyens qui se sont dit très mécontents en raison du bruit. Donc, cette année, on essaie de faire en sorte qu'il y ait moins de dérangements possibles. Alors,
à chaque événement, il y a toujours des plaintes pour le bruit.
C'est sûr. Alors, on écoute Marc Donneau qui explique en quoi le bruit est plus amplifié par le Share Beach.
Okay.
On a des citoyens dans le secteur, autant du côté sud, du côté nord de la rivière Magog, qui sont son plein. Et il faut se rappeler que la rivière a un impact pour le son. Ça fait diffuser le son de façon à le faire parcourir sur plusieurs mètres. Et ça a amené certains inconvénients l'année passée. L'événement a bonifié pour justement s'assurer de réduire l'impact, avec aussi les mesures de compensation ou d'amélioration qui ont été amenées. Une fois que les gens sont avisés, soit qu'ils peuvent rester chez eux s'ils sont capables de le tolérer, et sinon, de se trouver un autre événement.
Donc, Martin, le Share Beach, cette année au Parc Blanchard, ça va débuter à 17h au lieu de 15h, donc un petit peu plus tard. Et c'est prévu que ça se termine à 23h. Donc, pour les gens,
les
l'heure habituelle.
De la réglementation.
Voilà. Alors, vous le savez, c'est le 12 juillet.
Oui.
Ce que dit Marc Donneau, si c'est quelque chose qui risque de vous déranger, peut-être vous trouvez un autre projet ce soir-là.
Hey, tu peux faire même un slogan, le 12 juillet.
Oh, que d'esprit aujourd'hui, Martin.
À demain.
Ça n'arrête pas.
Non, c'est...